France Culture. Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Des bonnes choses qui font aussi dialoguer les cuisines grâce à la présence du chef Maurice Acco, qu'on retrouvera comme chaque semaine à 12h25 pour sa chronique, ce midi, viennoiserie. D'ici là, nous allons nous pencher sur un fruit à coque, bourré de ressources, mais qui a connu quelques années difficiles du fait de sa surproduction, des importations massives et de l'effondrement des cours. Même une grande actrice française s'est défendue en 2023 d'un petit mot sur son réseau social pour défendre la filière française. Écoutez.
Je suis à la campagne, dans le Périgord, dans le pays de la noix. Alors justement, un petit message pour essayer d'aider nos cultivateurs locaux. Quand vous achetez des noix, achetez français. Regardez sur l'étiquette d'où elles viennent. Parce que faire parcourir 15 000 km à une noix, vu les temps qui courent, c'est un peu exagéré, non? Ici, ça pousse partout. Il n'y a pas de pesticides, le bilan carbone n'est pas désastreux. Alors, mangez des noix, c'est bon pour la santé, mais mangez français, c'est mieux pour la planète.
Voilà Sophie Marceau. Alors qu'en est-il 2 ans après, alors que la récolte de noix bat son plein dans les deux régions nocicoles françaises, focus sur un produit aux variétés multiples et aux possibilités culinaires très riches. Jean-Julien Freit est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef pâtissier à la Halle au Grain, dans la Bourse de Commerce à Paris. C'est le restaurant de Michel et Sébastien Brasse. Julie Schwab est avec nous à distance. Bonjour à vous.
Bonjour Caroline.
Vous venez de signer le grand livre des noix aux éditions Flammarion. Grand livre des noix qui comprend toutes les sortes de fruits à coque. Mais nous allons nous concentrer sur le fruit issu du noyer. Et Christian Najaraf est avec nous également. Bonjour monsieur.
Bonjour Caroline.
Vous
bonjour
êtes
à tous.
Producteur de noix à Montmiral dans le nord de la Drôme et vous présidez l'Association nationale des noix de France, l'A2NF, et le comité interprofessionnel de la noix de Grenoble, parce qu'il n'y a pas que la noix dans le Périgord, il y a la noix de Grenoble également, qui regroupe environ 640 adhérents pour une surface globale de production de 6800 hectares, c'est-à-dire à peu près 75% de cette production est en Isère. La noix de Grenoble, justement, Christian Najaraf, c'est la première appellation fruitière française qui date de 1938, européenne en 1996. Est-ce que c'est en même temps la noix du Périgord et la noix de Grenoble qu'elles ont obtenu l'AOP ?
Alors non, on a une plus vieille histoire en termes d'AOP. En fait, en 1938, nos anciens avaient été visionnaires et ils faisaient de l'export en fait à l'époque à destination entre autres des États-Unis. Voilà, aussi bizarre que cela puisse paraître. Et cette vocation exportatrice en fait nous a valu début du 20e d'avoir un développement de la culture après et des États-Unis qui revenaient sur le continent européen avec des noix et donc pour se protéger, nous avons eu l'idée donc de se protéger via cette appellation noix de Grenoble. C'est pour ça qu'en 1938, elle a été créée. Alors que l'appellation noix du Périgord est beaucoup plus récente, elle date des années 80-90.
Mais en tout cas, ce sont les deux régions nocicoles de France, avec une bonne répartition à l'est et à l'ouest du pays, et surtout une immense variété. En fait, on ne le soupçonne pas quand on mange des noix, on pense qu'on mange des noix, point. Alors qu'en fait, il y a la corne, la grand-jean, la marbeau, la franquette pour la noix du Périgord, et pour la noix de Grenoble, trois variétés, la franquette, la parisienne et la maillette. Julie Schwab, vous qui vous êtes penchée sur les noix dans votre grand livre des noix, vous avez vraiment épluché, si je puis dire, toutes les variétés des noix. Est-ce que vous avez été surprise par la variété que vous avez rencontrée de noix ?
C'est vrai qu'on, quand on se balade, on voit partout en France des noyers, donc on a la chance d'avoir des variétés proches, locales, communes. Et c'est vrai que les variétés dont vous parlez, ce sont celles qui sont pour les appellations. Donc ça, monsieur Najaraf nous en dira plus pour la OP et la OC de Grenoble. Mais c'est vrai qu'il y a une multitude de petites variétés avec des formes, des tailles, des goûts parfois différents. Donc c'est ça qui est génial, quoi. C'est qu'on a vraiment de quoi se faire plaisir.
Et le comité interprofessionnel de la noix de Grenoble, Christian Najaraf, veut justement labelliser une nouvelle variété de noix en AOP, la Fer Nord. Pour quelle raison ? Il n'y en a pas assez ?
Alors, en fait, dans notre appellation, nous avons trois variétés, la franquette, la maillette et la parisienne. Et en fait, c'est une diversité, mais qui est quand même relativement faible par rapport au nombre de variétés qui peut exister. Et la Fernand, en fait, si c'est une nouvelle variété pour nous, il faut savoir qu'elle a quand même 30 ans. Donc, on a des pas de temps très longs, nous, sur les noyers. Ce sont des arbres qui vivent très vieux. Et donc, ça nous fait une variété de plus qui est très proche de la franquette, qui viendra agrandir la grande famille de la noix de Grenoble. Et il faut savoir que la noix du Périgord a entamé la même démarche en même temps que nous.
Avec quelle variété travaillez-vous culinairement, Jean-Julien Fret, vous ?
Nous, on travaille vraiment la noix de Grenoble dans sa globalité avec les différentes variétés. Mais c'est vrai que on est parti sur la noix de Grenoble plutôt pour un petit clin d'œil avec cette variété qui est la parisienne. Voilà, c'était un petit clin d'œil qu'on a voulu mettre en avant dans notre création. Voilà.
Quelle différence y a-t-il entre une noix et une autre noix, Jean-Julien Fret?
Après, on va vraiment...
À part le clin d'œil, je veux dire.
Après, c'est vrai que chaque variété a vraiment ses particularités au niveau des saveurs, au niveau des goûts. Il y en a qui sont un peu plus grillés, toastés. Il y en a qui sont un peu plus... la fraîcheur, tout dépend de ce qu'on va rechercher. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on va rechercher, c'est vraiment ce côté un peu grillé, toasté dans nos créations.
Quelle variété avez-vous, vous, Christian Najara, Femme Montmiral?
Alors, en fait, chez moi, j'ai essentiellement de la franquette. Hein. Donc, il y a vraiment la variété star qui est vraiment bien adaptée chez nous. C'est celle qui est la plus cultivée, la plus développée. Elle a une légère pointe d'amertume. Voilà, donc c'est une variété qui passe très bien. Hein. Et puis, de l'entrée au dessert, hein, en sucré, en salé. Hein. On pense souvent au sucré pour les noix, mais le salé aussi, ça va très bien pour ça.
Alors, vous venez de traverser, vous, je ne dis pas vous, Christian Najara, personnellement, mais vous, la filière française, vient de traverser 3 ans difficiles. Une crise en 2023, une mauvaise récolte en 2024. J'ai entendu parler de surproduction, d'importation massive de l'étranger, d'effondrement des cours. Qu'en est-il en 2025?
Alors, moi, comme tous mes collègues, on fait partie de la filière noix. Donc, oui, en fait, les années sont très compliquées. 2022, en fait, on a eu une récolte qui était extraordinaire en quantité. Et ça, partout sur le globe. Donc, ce qui a fait qu'il y a eu une surproduction mondiale de noix. Rajouté à ça, le Covid, en fait, a fait que les stocks américains s'étaient accumulés, n'avaient pas pu acheminer leurs noix en 2021. Donc, ils ont acheminé 2 récoltes en une année. Et c'est ce qui a fait écrouler le marché de la noix et qui a complètement engorgé le marché. Ensuite, 2023, on a eu une très petite récolte. Donc, nous, le prix se fait aussi par la quantité. Donc, quand il y a peu de noix, on fait beaucoup moins de marge à l'hectare. Et 2024, la qualité était moyenne avec une récolte petite aussi. Voilà. Donc, cette année, on espère, avoir un vrai retour à l'équilibre pour pouvoir repartir du bon pied. Là, on est en plein dans la récolte. On a un temps qui est splendide pour la récolte. On a des fruits qui sont superbes. On a eu une qualité qu'on a rarement vue. Et franchement, je pense que cette année, ce sera une très, très bonne année en termes de qualité. En quantité, on sera moyen. Et on a un petit souci, mais disons qu'on a des calibres qui sont un petit peu plus petits que d'habitude, liés à la canicule que l'on a eue au mois de juin, où le grossissement du fruit se fait à ce moment-là. Et on a perdu 1 ou 2 calibres à cette occasion.
Que faut-il justement, Christian Najara, pour faire une bonne récolte? Beaucoup de soleil, un peu de pluie, beaucoup de pluie, un peu de soleil, les deux équilibrés?
En fait, il faut un peu de tout ça. Hein. Il faut un climat qui soit assez favorable, c'est-à-dire à peu près normal. Donc, le changement climatique nous impacte comme toutes les cultures, dans une moindre mesure quand même. Hein. Mais il est vrai qu'il nous faut du froid l'hiver. Il nous faut aussi de la chaleur l'été pour que les fruits poussent et grossissent. Et puis, de la pluie au bon moment, hein. C'est-à-dire un peu l'été avec des orages. Et puis, l'hiver, qu'on reconstitue des réserves pour que le noyer ait des forces pour produire l'an prochain.
Et vous dites que la saison de la récolte bat son plein. En fait, elle a démarré en 2025, le 23 septembre. Pourquoi est-ce aussi précis?
Alors, en fait, ça fait partie de notre cahier des charges. Donc, nos appellations, en fait, on est soumis à un cahier des charges qui est validé par le ministère de l'Agriculture et à la Commission européenne. Et en fait, dans ce cahier des charges, il est écrit qu'une commission maturité se réunit, hein, donc c'est les membres du CING, donc de l'appellation, et qui détermine, en fonction des lots représentatifs de la zone, que la maturité est arrivée sur toute la zone et que l'on peut commencer à récolter de la noix de Grenoble. Voilà, nous, on a ça, on s'impose ça. Faut savoir que dans d'autres pays ou d'autres régions, et ben voilà, ils font pas forcément ça. Et nous, ben au moins, on est sûr de récolter de la noix à maturité.
Il y a un vrai décalage entre la récolte qui a lieu en septembre-octobre et la disponibilité en magasin. Le fruit est récolté quelques 2 mois avant la disponibilité, la mise en commerce. Est-ce que ça veut dire que celles qu'on trouve dans le commerce en ce moment ne sont pas fraîches?
Alors en fait, la notion de fraîche est assez compliqué à faire comprendre. En fait, le 23 septembre a démarré le marché de la noix fraîche, dite fraîche. C'est-à-dire que c'est des noix qui sont non séchées. Donc, la noix fraîche, elle dure 15 jours, 3 semaines. Et après, on passe sur de la noix sèche, mais qui est la même récolte. Hein. Et donc, ce qui fait que on commence à récolter les noix fraîches le 23, mais la pleine récolte pour faire de la noix sèche, en fait, commence vraiment dernier jour de septembre et puis le mois d'octobre. Et donc là, nous avons récolté les noix pour faire de la noix sèche, là, à partir de il y a à peu près une grosse semaine. Voilà, sachant que le temps de séchage et d'acheminement, il faut compter entre 15 jours, ouais, 15 jours, 3 semaines. Et donc là, les premières noix sèches, en fait, commencent à arriver sur vos étals. Voilà, celles qui sont les plus précoces arrivent sur les étals en noix sèche, en noix de Grenoble ou en noix du Périgord.
Et le CING que vous présidez, Christian Najaraf, le comité interprofessionnel de la noix de Grenoble, a aussi décidé de lancer une journée de la noix nouvelle. C'est quoi et pour quelle raison?
Alors en fait, vous l'avez un peu dit vous-même dans la précédente question, c'est-à-dire que voilà, les consommateurs se rendent compte qu'on démarre la récolte, on a sollicité un peu de toutes parts pour communiquer là-dessus, mais on est très frustrés parce que quand on démarre le 23 septembre, les consommateurs ne trouvent pas de noix dans les magasins. Et en fait, c'est ce temps-là qu'il faut que l'on récolte et que l'on sèche et qu'on achemine les noix. Et donc, c'est pour ça que l'idée nous est venue de faire la noix nouvelle. Donc, c'est-à-dire, alors, c'est pas le lancement de la commercialisation, c'est la pleine saison de la noix de Grenoble. C'est-à-dire que, cette année, c'est le jeudi 6 novembre. Le jeudi 6 novembre, on peut assurer à tous les consommateurs qu'ils trouveront de la noix de Grenoble dans tous les magasins, chez tous les marchés, les primeurs de France. Elle sera disponible en quantité et en qualité.
Si on disait un petit mot de l'histoire de la noix maintenant qu'on a fait un peu le tour du marché. Enfin, cela dit, on n'a pas dit non plus que la France était le deuxième producteur européen, dixième au rang mondial après l'Iran, la Turquie, le Chili, le Mexique, le Burkina Faso, l'Ukraine, la Roumanie et l'Ouzbékistan. Troisième pays exportateur, puisque plus de 50% de votre production de noix de Grenoble part à l'étranger. Et à l'échelle mondiale, les deux principaux producteurs de noix restent la Chine et les États-Unis. Il n'en a pas toujours été ainsi, mais c'est vrai que c'est un produit, Julie Schwab, qui vient de loin, qui est originaire d'Asie centrale et du Proche-Orient, et qui est arrivé en France relativement tôt, qui a été popularisé à partir du XVIIIe siècle. Vous dites dans votre grand livre des noix, Julie Schwab, que pendant longtemps, la noix a eu une mauvaise image.
Oui, elle n'avait pas forcément une très bonne réputation, même si les Romains l'utilisaient déjà, mais ils la connaissaient plutôt à travers des usages médicinaux et culinaires, oui, mais sur de la noix verte, parfois faite en confiture ou sur de la noix très fraîche. La noix sèche, elle était utilisée un peu en réserve et c'était parfois aussi assimilé aux fruits du pauvre qu'on savait, qu'on récoltait un peu, ne sachant plus quoi manger pendant l'hiver. Donc, elle n'a pas toujours eu une super réputation. Et c'est vrai qu'elle apparaît dans les livres de cuisine qu'au XVIIIe siècle, alors qu'elle était évidemment utilisée, consommée, enfin depuis l'Antiquité, etc. Donc, on a quelques citations d'agronomes. Du 5e siècle, du 6e siècle ou même au Moyen-Âge, mais c'est vrai que c'était un peu un fruit rustique, donc parfois indigeste, lourd à digérer. Donc elle n'a pas eu une très grande mise en avant et puis elle n'était pas assez noble. Voilà, c'était un peu un fruit du pauvre. Mais dès le 18e siècle, en fait, ça a vraiment changé et puis les ouvrages se sont tournés vers un peu moins de médecine, un peu plus de botanique, d'agronomie et puis on est venu sur la cuisine assez vite, quoi. À partir du 18e siècle, elle est vraiment utilisée, elle reprend son caractère noble et puis on en fait des confitures, on en fait des soupes, voilà. Elle est citée dans l'encyclopédie de Diderot et voilà, on dit qu'on tire énormément de services du noyer, aussi bien à manger, le bois, les huiles, enfin voilà, Enfin, elle a retrouvé ses lettres de noblesse.
Un fruit rustique, dit Julie Schwab, c'est précisément cette rusticité, Jean-Julien Fret, en tant que chef pâtissier, qui vous intéresse, vous.
Oui, tout à fait. En fait, c'est ce côté rustique. Avec Michel et Sébastien Brasse, au restaurant, on a voulu travailler ça parce que c'est un peu un rappel avec l'origine du lieu de la Lograin, qui est l'ancienne Alloblé, le grenier de tout Paris au XVIIIe siècle. Et du coup, en fait, notre création de cette année, notre bûche de Noël, s'associe avec l'orge et la noix. Et c'est ce côté rustique vraiment qu'on a voulu tirer de là avec la noix et en faire. Voilà, le visuel, c'est un côté tas de noix, petit sac de noix qu'on ramasse en automne.
Comme vous les avez apportées, vous avez apporté deux créations qui sont sur la table. Nous les mettrons en photo tellement déjà c'est beau avant d'être bon. Nous allons entrer un peu plus en détail dans cette création qui est la bûche de Noël 2025, Jean-Julien Fret.
Exactement.
Et puis dans le cake aux noix que vous avez apporté. Mais en général, on casse la coque, on mange le cerneau et on fait je ne sais quoi de noix. Certains récupèrent le brou pour en faire des choses sublimes. Écoutez.
Brou de noix, c'est un matériau naturel qui, comme son nom l'indique, vient de la noix. C'est la noix qui est devenue une sorte de poudre, qui a été chauffée, qui est devenue une pâte. Et cette pâte, Soulages l'a adoptée à ses débuts, en 1946, parce que c'était un matériau d'abord artisanal, banal, bon marché, qui lui plaisait beaucoup et qui créait une couleur, une transparence, une luminosité. Pas noir, mais proche du noir, qui lui convenait parfaitement. Il dit que c'est là où il s'est rassemblé, c'est là où il a trouvé véritablement son style. Et c'est pour ça que l'exposition est d'autant plus intéressante. C'est parce que vraiment, c'est le démarrage de l'œuvre avec ses peintures au brou de noix.
Pierre Soulages, évidemment, qui utilisait beaucoup de brou de noix dans ses créations et qui fait l'objet de deux expositions cet automne 2025, l'une au musée du Luxembourg à Paris, l'autre au musée Fabre à Montpellier. Vous n'utilisez pas le brou de noix, Jean-Julien Fret, pour vos créations ?
Non, pas le brou de noix, mais après on va travailler l'huile de noix qui est vraiment vient remplacer finalement la protéine, enfin le beurre dans nos créations. Et vient apporter une palette aromatique encore plus large. Et en fait, on vient utiliser également le reste de ce broyé de noix. En fait, quand on vient faire l'extraction d'huile, il nous reste qu'on appelle le tourteau, ou alors en pâtisserie, on appelle ça la farine de noix. Et ça vient renforcer en fait les saveurs dans nos créations.
Oui, vous avez disposé sur la table des petits pots dans lesquels on voit toutes les compositions que vous faites, ou même peut-être la décomposition de vos créations, avec les textures différentes de la noix, des cerneaux à l'huile, en passant par la poudre. Et c'est ça que vous utilisez, aussi bien dans le cake que dans la bûche aux noix.
Tout à fait, c'est ce qu'on appelle un peu, enfin ce que j'appelle un peu la palette du peintre. C'est un peu de cette nuance de noix et d'orge, et on vient piocher à l'intérieur en fait pour renforcer le goût de la noix, le goût de l'orge dans nos créations, et que ça soit dans cette création de cette année de la bûche et de la galette 2025.
Oui, parce que vous allez faire aussi la galette que les clients pourront déguster en janvier.
Exactement, en fait la galette va être un peu plus tourner vers l'orge avec un visuel un peu plus innovant et poussé vers le grain, parce qu'on apporte une nougatine sur le dessus et qui apporte une gourmandise, alors que la bûche cette année a plutôt un visuel de noix.
Vous vous en servez beaucoup, Jean-Julien Fret, dans vos créations de la noix, ou c'est occasionnellement seulement ? C'est un souvenir d'enfance pour vous, la noix ?
La noix est un souvenir d'enfance, et ça a débuté ici. Ça a débuté, en fait, c'est le gâteau aux noix de ma grand-mère qui faisait un gâteau quand j'allais chez elle. Et c'est vrai que ce croquant et ce moelleux restent en souvenir dans ma tête. Voilà, c'est vraiment ce souvenir de la noix que j'ai. Et après, dans nos créations, elle vient s'introduire, sur des desserts à l'assiette. On travaille beaucoup les desserts à l'assiette au restaurant, et je trouve ça important de mettre en avant les produits français.
Julie Schwab, vous aussi, c'est un souvenir d'enfance, la noix avant tout.
Ah oui, particulièrement. Moi, je suis née à Grenoble et puis j'ai passé une bonne partie de mon enfance dans un petit village qui s'appelle l'Albin, qui est vraiment au cœur du territoire de l'AOC. Et on se baladait dans des champs sous les noyers. Voilà, ma grand-mère mondait les noix avec ses copines le soir, à la veillée. Donc c'est vraiment une tradition familiale. Et puis c'est des souvenirs de ramasser les noix, les déguster le soir, sécher. Les noix fraîches aussi, ça c'est vraiment un souvenir d'enfance. Moi, je suis une grande, j'adore ça. J'en consomme pas mal. Donc c'est vrai que j'ai baigné dedans depuis toute petite. Après, j'ai fait des bouquins de cuisine sur d'autres sujets, mais c'est vrai que j'en rajoute souvent des brisures de noix dans les pâtes à tarte ou même dans les pâtes à quiche. Enfin voilà, des choses comme ça, ça rajoute un peu de saveur, un peu de croquant, et c'est une façon d'en manger aussi qui est hyper sympa, quoi.
Et vous consacrez tout un chapitre dans votre grand livre des noix aux vertus nutritionnelles. Alors des fruits à coque en général, mais de la noix en particulier. C'est un bon produit pour la santé, la noix ?
À la noix, c'est recommandé. Hein, sur le plan de nutrition nationale santé recommande de manger une petite poignée de noix par jour. Donc vous imaginez, c'est voilà. En fait, je pense qu'on n'en mange pas du tout assez. Une petite poignée, c'est 5-6 noix entières par jour. Et c'est extrêmement bénéfique. En fait, la noix classique, la noix du Périgord, la noix de Grenoble, ce qu'on appelle noix à nous, elle est vraiment archi recommandée. Elle est... elle réduit les risques de maladies neurodégénératives, elle amplifie la plasticité cérébrale. Je vous dis ça sous le couvert de David Noué, avec qui j'ai travaillé,
nutritionniste.
Voilà, donc c'est lui qui m'a donné toutes ces infos plus précises, et c'est vrai que c'est vraiment très très intéressant. Cette petite noix concentre vraiment un maximum d'éléments qui sont bons pour la santé cardiovasculaire ou la santé anti-inflammatoire.
Christian Najaraf, chez vous aussi, de père en fils, de mère en fils, je ne sais pas, il y a une tradition de la production de noix depuis l'enfance ?
Bien sûr, nous, ça fait vraiment partie de notre vie dès l'enfance. Hein. Et j'ai un petit souvenir, en fait, c'est à l'école, en fait, dans nos écoles, on connaît les producteurs de noix parce que les enfants, pendant la période d'octobre, ont les mains noires, tachées par le brou de noix, parce qu'ils récoltent les noix avec les parents, et ça, c'est un marqueur identitaire très fort sur notre territoire. Et notre territoire, en fait, c'est la richesse de notre territoire, que ce soit la noix de Grenoble ou la noix du Périgord, c'est la vie économique de notre territoire. C'est vraiment impensable de vivre sans, c'est notre quotidien, et ça fait partie de nous, en fait. Et des noix, ben oui, moi j'en consomme tous les jours, tous les matins, voilà, et c'est vraiment quelque chose qui est recommandé pour la santé. Et culturellement, c'est vrai que les Français en mangent assez peu par rapport à nos collègues allemands ou italiens, et c'est vrai qu'il faudrait que ça évolue un peu. C'est aussi un des buts de notre association nationale de promouvoir la consommation de noix, que culturellement ça augmente, parce que pour la santé c'est excellent, et quitte à manger des fruits secs, autant manger des fruits secs qui sont produits localement. Comme le disait Sophie Marceau.
Les producteurs veulent le label noix de Grenoble pour les cerneaux, parce que pour l'instant, ça n'est pas l'intérieur qui est labellisé, mais c'est l'ensemble, c'est la coque. Je ne sais pas pourquoi ça serait important pour vous.
Alors en fait, on a une vieille histoire, et en fait l'histoire fait qu'on a exporté très tôt les noix, et en fait nous on dit que les noix, on les vend dans leur emballage qui est leur coquille, qui les protège de l'oxydation, pour que le cerneau reste dans son état initial et de très bonne qualité. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que le mode de consommation change. Les gens achètent de moins en moins. Enfin, en achètent toujours, mais achètent de plus en plus de cerneaux de noix. Et là, par contre, en France, on trouve beaucoup de cerneaux d'importation. Et c'est pour pallier un peu à ça, où voilà, on va être en mesure de proposer des cerneaux, donc avec un cahier des charges noix de Grenoble, comme la noix du Périgord qu'il a déjà. Hein. Justement, pour pallier à ça et pour vraiment avoir du cerneau français pour les Français, avec une qualité qui soit garantie, comme pour la noix en coque. Mais c'est un enjeu d'avenir pour nous.
Et c'est ce que vous faites, vous, Jean-Julien Fret, avec justement cette promotion de la noix de Grenoble dans votre création, dans vos créations à la Lograin à Paris.
Oui, l'idée, c'est vraiment de, avec Michel et Sébastien, de promouvoir les fruits français, les produits français. Et du coup, à travers cette création, on met vraiment en avant la noix de Grenoble, cette noix qui est un appel aussi à la gourmandise, parce qu'on n'arrête pas quand on goûte la noix. En fait, on a envie d'en manger encore un peu plus. C'est ce que disait Christian, c'est qu'il en mangeait chaque jour. Donc finalement, je pense qu'il faut mettre encore plus en avant la noix et faire sa promotion.
C'est quoi une bonne noix pour vous, le chef pâtissier ?
Ah ben c'est vrai qu'on a tendance là, on a tendance à trouver que la noix, on va prendre plutôt vers la facilité en achetant les cerneaux, en achetant la poudre, etc. Mais c'est vrai qu'une noix de qualité, c'est une noix qui est encore fermée, parce que plus quand elle est fermée, la noix, elle garde tous ses arômes, elle est protégée, la coquille protège finalement la noix et de l'oxydation. Donc une noix de qualité, c'est vraiment une noix qui est encore fermée.
Noix qui est à maturité, la paroi intérieure est plutôt brune et le fruit intérieur est plutôt blanc. En tous les cas, ça c'est l'une des choses, des nombreuses choses que j'ai apprises en préparant cette émission. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de la noix. Bien entendu, la bûche de Noël sera en commande à partir de début novembre par téléphone ou sur le site de la Halle au Grain. Alors, c'est pour 10 personnes, c'est 78 €, donc c'est une bûche assez exceptionnelle au visuel et au goût. Le cake, mais il faut le consommer sur place, mais vous avez fait le plaisir et l'honneur de nous donner la recette de votre cake aux noix, Jean-Julien Frette. Si on préfère voir les noix en peinture que les manger, Pierre Soulages, c'est à l'honneur au musée du Luxembourg à Paris et au musée Fabre à Montpellier jusqu'en janvier 2006. Et si on veut tout savoir sur la noix et les autres fruits à coque, on se reporte au grand livre des noix de Julie Schwab. Il est 12h26 sur France Culture, l'heure de retrouver la chronique de Maurice Sacco. Le dialogue des cuisines. Bonjour Maurice.
Bonjour Caroline. Alors je vais vous parler des viennoiseries. Parce que tout d'abord, je ne connais personne qui n'aime pas les viennoiseries. Et on va sauter d'un débat pour démarrer. La France est bel et bien, à l'heure actuelle, le pays où on déguste les meilleures viennoiseries. Par ailleurs, je pense que comme beaucoup, c'est ce qui me manque le plus quand je voyage. Mais si l'on doit s'attarder sur son origine, le nom nous donne déjà un bel indice. Les viennoiseries sont originaires d'Autriche. Les boulangers viennois étaient à l'époque réputés pour leur maîtrise des pâtes levées fermentées. Elles furent introduites à la cour de France par Marie-Antoinette, fille de l'empereur d'Autriche. Puis furent popularisées par des boulangers d'origine autrichienne. Dans ces boulangeries, on venait chercher des produits portant une identité viennoise. Le nom de ces lieux fut résumé en viennoiserie. À l'instar des chinoiseries, ce terme regroupait tout ce qui portait une influence autrichienne. C'est à ce moment qu'une invention française créa une première rupture, la pâte feuilletée. On attribue son invention au renommé peintre Claude Gelée, ex-apprenti boulanger qu'il aurait imaginé pour son père malade. Puis la recette fut perfectionnée par le célèbre chef Antonin Carême et le bien nommé chef Feuillet. Cette invention donna ensuite naissance à d'autres, et à l'un des emblèmes les plus puissants de la France, le croissant. Le croissant a lui aussi un ancêtre autrichien, le Kipferl, viennoiserie en forme de croissant réalisée à base de pâte à brioche. Cette forme était censée représenter le croissant ottoman en célébration à une victoire autrichienne sur l'Empire ottoman durant le siège de Vienne. Ce n'est qu'à partir du XXe siècle que le croissant que l'on connaît se popularise, avec une invention des boulangers parisiens qui décidèrent de réaliser ce croissant à base de pâte feuilletée. Si la viennoiserie est aujourd'hui vue à juste titre comme une spécialité française, on ne peut ôter l'importance de l'Autriche dans notre savoir-faire. Un vrai dialogue des cuisines en somme. Toute cette histoire a dû vous ouvrir l'appétit. Je termine donc avec un de mes péchés mignons qui ira parfaitement sur la table de votre brunch dominical. C'est une recette qui a un nom un peu barbare. C'est, je mets des guillemets, le croissant club sandwich. Donc, prenez un croissant, puis coupez-le en deux dans l'épaisseur. Réalisez une mayonnaise. Petit tips, remplacez les 3/4 de la moutarde nécessaire par du miso. Vous en trouverez facilement dans les épiceries asiatiques ou dans le rayon asiatique de votre supermarché. Ensuite, taillez des rondelles de tomates, de la laitue et des tranches de filet de poulet précédemment cuits. Cuire un œuf dur, puis le tailler en rondelles. Étalez la mayonnaise au miso sur vos deux tranches de croissant, puis disposez tout ce beau monde dans le croissant. Refermez comme un sandwich et bon appétit. C'est une recette simple et gourmande qui plaira à tous les âges.
Merci beaucoup Maurice Sacco. Toutes les informations, les adresses, les références sont à retrouver sur notre site franceculture.fr. Pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses de la chaîne, rendez-vous sur l'application de Radio France. Les bonnes choses ont été préparées avec Léa Varin et Jean-Christophe Francis à la réalisation. À la technique aujourd'hui, c'était Mineta Diawara. Excellente journée à l'écoute de France Culture.